Bonjour, vous êtes bien sur Radio Canu 102.2 et voilà l'émission Lilith, Martine et les autres. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler du sport. Alors pourquoi on a décidé de parler du sport? Parce que qu'on le pratique ou pas, on s'est dit que c'était une pratique qui était de toute façon très genrée, que ça soit dans les sports, enfin dans le sport professionnel ou dans le sport amateur. Et du coup, on s'est posé tout un tas de questions sur ça. Pourquoi il y a des sports qui sont beaucoup plus pratiqués par des filles que d'autres, d'autres qui sont beaucoup plus pratiqués par des garçons? Pourquoi il y a des différences de résultats sportifs? Pourquoi les journaux s'intéressent plus à certains résultats qu'à d'autres? Alors en fait, on s'est posé vraiment plein de questions, on avait l'intention de contacter plein de gens, alors ça va pas se faire tout de suite. On les a contactés, mais ils n'étaient pas forcément tous disponibles, donc on reviendra sans doute sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, on va commencer sur des questions un petit peu plus générales sur le sport, sachant qu'on ne va pas aborder la question de est-ce que le sport c'est bien ou c'est mal, pour schématiser, c'est-à-dire la question de est-ce qu'il faut encourager des pratiques sportives, des pratiques de compétition, du sport professionnel, etc. Ça ne va vraiment pas être notre sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des normes dans le sport, en passant en gros des normes dans le sport de haut niveau, puisque finalement, c'est là qu'on atteint des questions vraiment, on va dire, profondes sur la question notamment de la mixité et de la non-mixité. Et puis ensuite, on viendra plus aux pratiques amateurs et au rôle de la socialisation dans le genre et le sport. Après, on donnera peut-être quelques exemples de pratiques locales de sport féminin, pour donner envie si c'est pas déjà fait. Alors d'abord une petite musique, Gossip, Standing Out of the Way of Control.
And all I see is a donc on s'est trompé de chanson, mais du coup on vous redira le titre tout à l'heure. Et là on va parler un petit peu donc de la non-mixité ou de la mixité dans le sport, surtout à haut niveau. Parce que finalement ce qui nous intéresse là-dedans, c'est aussi la définition de la femme qui est faite par le sport, quoi, par la catégorie femme dans le sport. Donc déjà on peut remarquer qu'il y a très peu de sports en haut niveau, en compétition, qui sont mixtes. En fait, il y a que les sports équestres, enfin l'équitation dans les disciplines olympiques qui est mixte à tout niveau, c'est-à-dire il y a aussi bien des juments, des étalons et des ongres que des cavalières et des cavaliers, donc c'est complètement mixte. Et il y a la voile aussi où il y a quand même beaucoup d'épreuves qui sont mixtes, bien que pas toutes. Et donc ce qu'on peut remarquer déjà à ce niveau-là, c'est que ne sont mixtes que les sports où il y a un élément qui représente la force physique un peu. Par exemple, en équitation, ça va être le cheval et pour la voile, ça va être le bateau. Donc là, on a une mixité à partir de ça.
Alors, pour continuer à avancer dans notre réflexion, je vais essayer de te poser des petites questions qu'on s'est posées au fur et à mesure. Bon, elles sont un peu naïves, mais c'est juste pour essayer de comprendre. On pourrait répondre tout simplement qu'on a fait des catégories hommes et femmes pour que les femmes puissent gagner des médailles, parce qu'autrement, elles ne seraient jamais premières.
Ben, alors, ça, c'est effectivement une idée qui est très répandue. Hein. Très bien, très bonne question. Alors, en fait, effectivement, on peut se dire, comme les hommes sont plus forts en sport en général, il faut qu'il y ait une catégorie pour les femmes pour qu'elles aussi puissent gagner des médailles, etc. Et en fait, si on creuse un peu, c'est pas forcément comme ça qu'apparaît la non-mixité dans le sport. Parce que, par exemple, pour le cas du tir de skeet, alors c'est du tir à la carabine, hein, je sais pas exactement plus ce que c'est. En gros, c'était un sport qui était mixte, qu'il était encore en 92, où là, il y a Shan Zhang, qui représentait la Chine aux Jeux Olympiques de Barcelone, qui a remporté en fait la première place, alors qu'aucune femme n'avait jamais remporté une épreuve mixte de tir. Donc, elle était première devant 9 hommes. Et en fait, de façon tout à fait surprenante, la Fédération internationale de tir a décidé que cette épreuve ne devait plus être mixte. Donc à partir de là, l'épreuve était non mixte. Donc on peut se demander si effectivement c'est la non-mixité est motivée par le fait que les femmes puissent gagner des médailles ou pas. Et du coup, voilà, notre réflexion, elle avance un petit peu dans le sens... comment justifier alors la non-mixité, vu que là, on voit plutôt que les femmes peuvent gagner dans des épreuves mixtes. Moi, mon impression, c'était que ça permettait juste de renforcer le mythe selon lequel, de toute façon, les hommes étaient plus forts dans les sports et que les femmes devaient avoir leurs épreuves à elles.
Oui, donc je passe à la question suivante, qui est encore un peu naïve. Donc c'est... si la non-mixité permet toujours ça, en fait, je voulais poser la question pourquoi, par exemple, dans le 100 mètres, au niveau, par exemple, les Jeux Olympiques, les records du monde entre les hommes et les femmes, ils ont un écart assez important. Par exemple, au 100 mètres, c'est 9,58 avec Usain Bolt chez les hommes, et c'est de 10,49 chez les femmes avec Florence Griffith Joyner. Et pourquoi il y a 2 secondes et ces écarts ils se réduisent jamais, surtout que chez les hommes ils continuent, on pourrait dire entre guillemets, à progresser, puisque les 3 meilleurs records du monde datent de 2008-2009, alors celui, le record du monde des femmes au 100 mètres date de 1988 et il a jamais été battu, bien qu'on soupçonne l'athlète dopé à l'époque, mais disons que le deuxième meilleur record est de 10,64, entre 10,64 et 10,49 il y a beaucoup d'écarts. Donc comment on pourrait justifier par exemple...
Oui, parce que peut-être que dans le sport de haut niveau, le rôle de la socialisation, de la manière dont sont formés les athlètes, a aujourd'hui plus beaucoup de différence. Parce qu'un temps, on a dit que l'écart qu'il y avait entre les records du 100 mètres... alors, on prend le 100 mètres, hein, on rappelle, parce que du coup, c'est un sport en fait presque pur, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Par exemple, il n'y a pas l'enjeu de l'équipe, il n'y a pas... voilà, il y a l'enjeu du matériel, etc. Mais... voire des médicaments, mais normalement non. Et voilà, et du coup, une fois que les athlètes aujourd'hui sont entraînés à peu près de la même manière entre les hommes et les femmes,
à peu près,
et puis il reste la différence sur des générations et des générations, etc. Mais qu'est-ce qui, hors du facteur socialisation, du coup, pourrait expliquer cette différence-là ?
Ben, alors, du coup, moi, ce que j'ai trouvé, c'était un petit peu que les catégories, en fait, sont construites par rapport à la norme, qui est l'homme valide. Et donc, à partir de là, on va construire des catégories qui vont être inférieures. Par exemple, les catégories handisport, où on va avoir des personnes qui vont concourir dans ces catégories-là, ou les catégories femmes. Mais dès que il y a des personnes dans l'une ou dans l'autre des catégories qui se rapprochent, enfin qui sont vraiment meilleures ou qui se rapprochent des capacités des hommes valides, eh ben elles vont plus pouvoir appartenir à ces catégories, ou en tout cas pas pouvoir se mesurer aux hommes non plus. Donc c'est un petit peu cette idée-là que les catégories sont juste construites pour être inférieures, en fait. Mais on va revenir sur cette question après.
En fait, il y aurait la catégorie norme, puissante, et puis il y a les catégories qui essaieraient de s'en rapprocher, c'est ça?
Oui, mais qui peuvent pas s'en rapprocher, parce que si elles s'en rapprochent, elles font plus partie de leur catégorie.
Elles passent dans une autre catégorie.
Voilà. Mais on va revenir là-dessus après.
Après une petite musique?
Après une petite musique.
Bon, alors est-il besoin de rappeler le titre et l'auteur de cette chanson qu'on vient d'écouter ? Donc, Sans contrefaçon de Mylène Farmer, un peu commercial peut-être pour Radio Canu, j'espère que personne nous en voudra au bureau, que la personne du bureau ici présente ne nous moucharde pas, s'il vous plaît. Alors, sinon, question à propos de ce qu'on se posait, là récemment, il y a eu une affaire cet été, en fait, au championnat du monde, je crois, d'athlétisme. Il y a une athlète sud-africaine qui a battu plein de records. Et elle a été soupçonnée, je crois, de ne pas être une femme, en fait.
Oui.
Donc, de ne pas courir dans sa bonne catégorie.
Donc, en fait, ouais, c'est Carter Semenya, en fait, qui est donc championne du monde actuelle du 800 mètres et qui a dû subir, suite à ses records, plein de tests divers et variés qu'on appelle les tests de féminité. Puisqu'en fait, comment ça se passe ? C'est juste, on a un soupçon, elle paraît grande, elle est un peu masculine, elle n'a pas l'air très féminine selon les critères des juges. Donc on se dit que ben, peut-être si elle court si vite, c'est que c'est un homme et que c'est pas une femme. Donc elle n'a pas le droit de concourir dans la catégorie des femmes.
Selon les critères des juges et puis de ses co-coureuses, enfin je ne sais pas comment on dit, de ses concurrentes en fait aussi, d'après ce que j'ai compris, il y en a qui ont contesté, qui se sont opposées.
Ouais, il y a deux histoires un peu là-dessus. Il y a une histoire selon laquelle c'est les autres concurrentes qui sont allées porter plainte en disant que, en gros, elle n'avait pas le droit de concourir puisque c'était pas une femme. Et une autre histoire comme quoi c'est un médecin qui l'aurait vu lors d'un contrôle antidopage faire pipi dans un gobelet et qu'il aurait vu que c'était pas une femme. Donc voilà, en gros, on sait pas trop comment. Enfin, il y a aucune transparence en fait par rapport à ces tests. Puisque même en creusant beaucoup, on n'arrive pas à savoir que sont réellement ces tests. Bah, je vais peut-être revenir un petit peu sur les différents tests de féminité qu'il y a eu. Puisque en fait, c'est en 66 que ça a commencé, les tests de féminité. Et à ce moment-là, c'était surtout un contrôle gynécologique et morphologique pour voir en fait si c'était pas des hommes déguisés en femmes. Donc il y avait ces contrôles-là. Et aussi, on mesurait leur force musculaire et leur capacité respiratoire pour voir si elles étaient bien inférieures à celles des hommes. Parce que sinon, ça marchait pas non plus. Donc là, on voit déjà l'esprit des tests de féminité qui sont bien de vérifier que ce sont des personnes qui sont inférieures en capacité sportive aux hommes. Ensuite, on les a jugées un peu humiliantes comme pratique. Et du coup, on en a changé en 68. Puisque on faisait un prélèvement de muqueuse plutôt pour voir les chromosomes et tout ça. Et maintenant, c'est plutôt par rapport en fait aux hormones. On teste le taux de testostérone, mais il y a aussi d'autres tests qui se font et on ne sait pas lesquels c'est. Puisque par exemple pour Carter Semenya, elle a aussi dû aller voir un psychologue pour voir si c'était une femme ou pas. Donc voilà, ça pose vraiment la question de quelle définition d'une femme on a dans les pratiques sportives.
Et puis qui c'est qui fait ces tests de féminité ? Parce que je veux dire, il n'y a pas une instance mondiale du sport ou je sais pas quoi, donc il y a peut-être des pratiques différentes.
Ah mais c'est qu'il n'y a aucune norme par rapport à ça. Donc c'est un peu la question qui est en train de se poser aussi, c'est-à-dire que là, il n'y a pas encore les résultats qui sont sortis pour elle, sachant qu'on ne sait même pas les tests qui ont été pratiqués. Mais en plus, donc toutes les fédérations internationales sont en train de réfléchir pour s'harmoniser sur un test, ce qui voudrait dire qu'en fait, au final, on aurait une définition scientifique et internationale de ce que serait une femme. Donc c'est quand même assez impressionnant et assez effrayant aussi, puisque justement ça pose plein de questions pour les personnes intersexes et puis ça normerait vraiment un peu de façon définitive la question.
Ce qui est impressionnant, c'est qu'apparemment ça a l'air d'être une définition qui est sur plein de niveaux, quoi, chromosomique, hormonal, psychologique. Et puis d'apparence, quoi, puisque voilà, Semenya Carter, c'est sur ça qu'on a eu les premiers soupçons, en fait.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est assez vague et impossible de trouver réellement quels sont les tests. Même selon Anaïs Bouillon, qui est la chercheuse actuelle là-dessus. Et du coup, en fait, moi, j'ai continué à creuser un petit peu sur ces questions-là.
Peut-être on peut évoquer, parce que moi je trouve ça vraiment grave, ce soupçon de non-féminité qui est vraiment lié à l'apparence. J'aurais bien cité alors le médecin Jean-Pierre de Mondenard, qui a déclaré sur Europe 1, le lendemain de la victoire de Semenya, les 11 autres finalistes ont un morphotype, donc j'aime bien déjà le terme, un morphotype féminin de coureuse de 800 mètres. Elles, donc il y en a un, déjà, sachez-le. Elles ont des épaules droites, on voit leurs clavicules, elles ont un bassin un peu large. En revanche, quand la Sud-Africaine court, elle a des épaules de déménageur, un bassin étroit. Et d'ailleurs, ça c'est vraiment anecdotique, précise-t-il. Mais si on a regardé la finale du 800 mètres, on a pu voir que les 11 athlètes avaient une culotte et un seul avait un Bermuda. Voilà, donc sur ces critères-là, on a remis en cause non seulement sa victoire, mais aussi finalement son identité, enfin, qu'elle s'était forgée jusque-là. Donc, Et voilà. Puis le fait qu'une femme puisse être aussi forte.
Ouais, parce que derrière, c'est un peu l'idée qu'elle court trop vite pour être une femme normale, et que donc, en fait, une femme normale, c'est une personne qui court moins vite que l'idéal de l'homme valide, super fort, qui explose toutes les catégories.
Et du coup, pour en revenir à ça, donc, dans les tests, un des tests principaux, c'est quand même, on teste la testostérone, sachant que c'est une hormone qui permet de faire se développer les muscles, qui aide la résistance à la fatigue, etc. En gros, c'est une hormone que les sportifs et sportives produisent eux et elles-mêmes quand ils s'entraînent à haut niveau. Et du coup, en fait, c'est pas mal par rapport à ça qui est testée la féminité. Sachant qu'en fait, chez les hommes, il n'y a pas de plafond de testostérone. Il y a un plafond où on va vérifier qu'ils ne sont pas dopés. Donc, s'ils ont énormément de testostérone, on va les tester et voir si la testostérone, c'est eux qui la produisent ou si ils se l'ont injectée. S'ils l'ont injectée, c'est du dopage. S'ils la produisent eux-mêmes, c'est bon. Ils ont juste un bonus hormonal, comme on appelle ça, qui leur permet justement d'être des grands sportifs. Pour le cas de Semenya, elle, alors a priori, ce qu'on a trouvé, c'est qu'elle avait énormément de testostérone parce qu'elle avait des testicules internes ou je ne sais quel organe. Et du coup, on peut se dire que elle est pas dopée et que si on prend les mêmes critères que pour les hommes, elle est pas dopée, elle a juste plein de testostérone et vu que c'est elle qui l'a produit, il y a pas de souci. Mais non, en fait, parce que quand on est une femme, on n'a pas le droit d'avoir de la testostérone. C'est ce qui fait qu'on est une femme. Donc encore une fois, on en revient au fait que pour être une femme, c'est juste être moins forte et on a des plafonds que les hommes, eux, ont pas, en fait. Enfin, la question, c'est vraiment de la normalité et de l'anormalité. En gros, Carter Semenya est certainement anormale par rapport à la norme des femmes et de leur fonctionnement hormonal. Oui.
À une tendance moyenne, mais
voilà,
mais
une tendance
pas de frontière non poreuse, mais... quoi, en la matière.
On sait très bien que tous les athlètes sont au-dessus de la norme, c'est voilà. Pour ça qu'ils vont encore
voilà,
plus.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est de toute façon, est-ce que les sportifs de haut niveau sont dans les normes? Non, de toute façon. Donc c'est un peu, vraiment, je trouve que c'est complètement injustifiable de la disqualifier, juste sur des critères qu'elle est plus forte que les autres femmes, quoi.
Puis par ailleurs, ça résume la performance sportive à un critère, qui est celui de la testostérone. Je savais pas que c'était un critère dans l'évaluation sportive, mais quelque part, ça veut dire qu'on estime que c'est uniquement grâce à ça qu'elle gagne et qu'elle est forte, absolument pas grâce à son entraînement, sa ténacité, son intelligence corporelle, ou je ne sais pas quoi. Et du coup, voilà, ça c'est inquiétant aussi qu'on puisse se dire que le sport est évalué que là-dessus, quoi.
Et par exemple, est-ce que c'est arrivé qu'on soupçonne des athlètes masculins de pas être des vrais hommes?
Non, en fait, il y a pas de test de masculinité qui existe. Parce que eux sont la norme finalement, donc on les soupçonne de dopage. Les hommes sont soupçonnés de dopage, donc on vérifie que leur testostérone vient bien d'eux-mêmes et qu'ils ne se la sont pas injectés. Ouais, non, il y a pas, on va pas les, on soupçonne les femmes d'être des hommes, mais on soupçonne pas les hommes d'être des femmes.
Ouais, mais aussi parce qu'on on contrôle que ceux qui gagnent, donc ceux qui pourrait être classifié peut-être dans la catégorie femme, en fait, pour les hommes, selon les testostérones, en fait, on les contrôle pas, puisqu'on contrôle que les vainqueurs.
Ouais.
Du coup, eux, ils n'ont pas gagné. Donc... les athlètes qui seraient des faux hommes, finalement, ils ne seraient pas menaçants pour les vrais hommes, puisque c'est eux qui gagnent tout le temps.
Donc... on va mettre une petite musique et puis après on parlera plus des pratiques amateurs ou pas de haut niveau, même si ça a permis de ce haut niveau de parler de l'aspect non socialisation.
Et on va parler aussi du fait d'être de remettre en question notre sexe, de faire des même quand on est amateur. Ouais. Il arrive que des gynécologues ou des médecins remettent en question le sexe de quelqu'un et on va voir les conséquences que ça peut avoir sur...
Oui, tout sur, le côté psychologique peut-être, parce qu'il faut rappeler par exemple qu'il y a une Indienne au niveau, par contre la professionnelle, qui avait été justement éliminée, je ne sais plus si c'était une Indienne, je ne me rappelle plus si c'était Jeux Olympiques ou pas. Et du coup, on l'avait considéré que c'était pas une femme, mais elle avait quand même une tentative de suicide derrière. Donc il faut rappeler que ça peut avoir aussi des conséquences psychologiques assez dramatiques sur une personne, sachant que les sociétés sont quand même assez binaires, homme-femme, et remettre en cause le
fait d'être toute façon, un homme. Quand ça vient de l'extérieur.
Voilà.
Donc il peut pas choisir son identité, quoi.
C'était bien une Indienne, c'est Santi Sundaranjan. Désolée.
Bon, ben on va écouter Jeanne Chéral avec Madame Suzy.
Madame Suzy a des ennuis, Madame Suzy a des soucis. Elle paraît bien triste, elle qui pourtant tous les jours me sourit quand elle vient à la boulangerie. Tout a commencé mercredi, le jour où avec son mari, elle reçoit le petit Jean-Louis à manger sur le coup de midi. C'est leur fils, il est très gentil. Et justement ce mercredi, d'après ce qu'a dit Madame Suzy, il avait le petit Jean-Louis tout juste 26 ans et demi. Mon Dieu, c'est fou! Qu'est-ce que ça grandit? Le mari de Madame Suzy, qui du même coup est aussi le père de notre brave Jean-Louis, a réfléchi et puis s'est dit qu'il fallait parler au petit. Quand Jean-Louis la porte a franchi, ses parents l'ont bien accueilli. Puis tous les trois se sont assis autour du plat de spaghetti et monsieur la parole a pris. On sait qu'à 26 ans et demi, c'est bien que les gosses se marient, sinon ça traîne. Et puis les filles, y'en a plus nulle part. Eh oui, qu'est-ce que tu en penses, mon petit? Comme Jean-Louis restait interdit, Madame Suzy lui a servi une grosse assiette de spaghetti, en pensant que comme l'appétit, le bagou vient petit à petit. Mais aussitôt monsieur reprit, Jean-Louis, un de ces quatre midi, faudra que tu ramènes ici avec toi ta petite amie. Faudra nous présenter une fille. Ni, 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 ni. Dans son assiette, Madame Suzy avait très peu de spaghetti, mais elle souriait à son Jean-Louis comme pour lui dire, réponds oui. Mais Jean-Louis restait interdit. Ni, 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 ni. Il se fout de qui s'est étendu dans la famille. Et c'est là que Jean-Louis a dit, Papa Marcel, Maman Suzy, vous en serez sans doute aigris, mais jamais une seule fille ne passera le seuil d'ici. Pardonnez-moi, j'aime un garçon. Garçon? Pourquoi pas? Fonk, c'est pas possible, petit con, tu mens ou tu perds la raison. Avec les garçons, on voit sa queue dans les feuilletons, pas sous le toit de ma maison. Entre les deux monta le ton, il pleura Madame Suzon. Le père décida pour de bon que son débauché de fiston ne viendrait plus à la maison. Alors Jean-Louis mit son blouson, il regarda Madame Suzon qui se mouchait dans un torchon, les yeux rouges comme des pucerons. Et puis il quitta la maison.
Bon, alors, donc voilà, pour conclure sur ces pratiques de haut niveau, c'est juste pour dire que, donc, en tendance, les hommes, a priori, sont plus forts que les femmes à très haut niveau, hein, parce qu'évidemment, dans les pratiques amateurs et tout ça, on va pouvoir trouver d'autres choses. Mais surtout,
ça dépend
c'est
des
parce
sports
que...
aussi. Là, on a parlé surtout de l'athlétisme, mais on a vu le tir à la carabine, tout ça.
Et que, par ailleurs, c'est forcément, ce sera forcément toujours le cas. Jamais une femme ne pourra battre le record, puisqu'à partir du moment où elle est trop forte, on la met dans les catégories hommes, puisqu'en fait, la définition de la catégorie femme, c'est finalement moins forte. Tout simplement.
Et alors, pour faire une petite transition entre le côté psychologique et les pratiques amateurs, en fait, on va avoir un petit témoignage d'une copine qui a subi de la part de son médecin qui lui a fait faire des tests hormonaux pour vérifier si elle était vraiment une fille. Donc, qu'est-ce que c'était ces tests hormonaux, en fait?
Je suis allée chez ma gynécologue pour voir si tout allait bien. Puis, elle m'a demandé des petites questions, comme d'habitude, sur mes relations sexuelles, etc. Donc, j'ai dit que ça m'arrivait de coucher avec des filles, etc. Et après, elle m'a fait un frottis, etc. Et après, elle a été très surprise de ma pilosité. Elle m'a demandé depuis quand j'avais cette pilosité. J'ai mis un temps à répondre parce que je ne m'attendais pas du tout à cette question. Et j'ai dit depuis l'adolescence. Et là, elle m'a dit que peut-être que j'avais un excès d'hormones, un excès de testostérone et qu'il faudrait peut-être faire des tests pour voir si j'avais le bon taux d'hormones et de testostérone. Et après, elle m'a dit si jamais il y a un problème, entre guillemets, elle m'a dit qu'il faudrait prendre des hormones. Et... moi, j'étais silencieuse dans tout ce truc parce que franchement, je n'allais pas prendre des hormones et il était hors de question de prendre des hormones. Et à la fin, je lui ai quand même posé les questions de pourquoi je suis allée la voir. Juste après ça, ça allait assez bien. Heureusement que j'ai vu une amie après cet entretien parce que je n'allais pas forcément très bien. Je me posais des questions. Enfin, je ne tiens pas spécialement à être... à l'identité de femme, mais là, elle remettait complètement en question ça, et alors qu'elle n'en savait rien, elle n'avait pas fait de test ni rien. Donc j'étais vraiment pas bien pendant toute l'après-midi, j'étais vraiment pas bien. Et c'est surtout, en fait, après j'ai fait les tests, etc. Mais ce qui me dérangeait, c'est pas forcément les hormones ou etc., c'est que finalement, je correspondais pas forcément à la femme type, entre guillemets, puisque une femme type, c'est quelqu'un qui n'est pas poilu par définition. Et je ne correspondais pas forcément à ça. Et c'est la façon dont elle m'a dit les choses, en fait, que je devais prendre des hormones, etc. Et ça, c'est ça qui m'a fait le plus de choses, en fait. Et donc, et puis il y a le fait que quand on remet en question ton identité de femme ou d'homme, finalement, t'es plus rien, en fait. T'es plus humain, t'es plus quelqu'un, en fait. On te remet en question puisque on est construit en tant qu'homme ou femme et tu ne peux pas être rien. C'est pas... Techniquement, c'est pas possible, en fait. On peut pas... C'est difficile de...
d'être... On peut même pas dire, on dit juste rien.
Il y a même pas de mots pour dire... on peut dire le troisième sexe, mais il y a pas vraiment de choses. Donc moi, ce qui m'a surpris, et après, ça m'a fait réfléchir sur, finalement, quand on correspond pas à la femme type, on veut te faire changer d'une façon ou d'une autre tes comportements ou ton corps, en fait. Le corps des femmes est transformé aussi... par rapport à ça. Ouais.
Donc, elle t'a pas posé la question. Vous, ça vous va? Est-ce que vous aimeriez autre chose? Elle t'a juste dit.
Elle a pas dit.
Ça, c'est pas normal.
Ça, c'est pas normal. Donc, ça doit être biologique, alors que.
Puis, surtout que ça induit pas de problème de santé. En fait, elle veut changer que la personne va bien. Parce que si ça pouvait poser des problèmes de santé, on pourrait dire elle est médecin, elle veut que ça aille mieux. Mais là, pas du tout. En fait, ça change rien au niveau de la vie courante, quoi.
Voilà, c'est pareil pour les intersexes, on fait des chirurgies très tôt parce qu'ils ne correspondent pas à la bicatégorisation de femmes et d'hommes. Et ça. Ils ne correspondent pas à la norme, et même s'ils sont en bonne santé, on va changer, on va faire en sorte qu'ils correspondent aux parties génitales femmes ou hommes. Alors qu'ils ont des organes génitaux réels et on ne les prend pas en considération.
Par exemple, elle a mis directement en relation le fait que tu lui avais dit que parfois c'est arrivé de coucher avec des filles et
après je me suis posé la question, exactement, elle a pathologisé ce comportement. Donc, ouais.
Ouais, et juste pour dire que c'est pas complètement fou, moi mon gynéco aussi m'a fait faire des tests pour savoir parce que j'étais trop poilue.
Okay.
Donc pour savoir si moi aussi je correspondais ou pas.
Et après il m'a même
dit que je pouvais demander pour Noël une épilation définitive.
Ah, il allait plus loin que le mien.
C'est un homme.
Et alors est-ce que tu es une vraie femme finalement?
Oui.
Oh, génial.
Oh.
Et toi?
Moi aussi.
Et donc on peut voir surtout que ne serait-ce que proposer des idéaux de féminité, ça peut avoir des conséquences psychologiques sur les femmes aussi, même si on ne tient pas forcément pas vraiment envie d'être femme ou homme, mais n'empêche que ça peut quand même bouleverser. Donc voilà, c'est bon, on ne fait pas subir en plus ces tests qu'aux grandes sportives, mais aussi un peu à tout le monde, même lors des pratiques amatrices. Donc on va peut-être enchaîner sur...
Bah justement, là on a un peu parlé des critères soi-disant biologiques, hein, même qu'on soit d'accord avec ou pas, c'est la catégorie en tout cas qui est donnée. Sachant qu'effectivement, les grandes différences finalement entre hommes et femmes aussi dans le sport, c'est pas uniquement pour des raisons biologiques, mais c'est bien évidemment pour des raisons sociales. Alors on va peut-être un peu moins appuyer sur ça dans cette émission, mais parce que bah, je sais pas, nous on a découvert des trucs en tout cas, tout ce dont on a parlé avant là, donc ça nous semblait intéressant de les préciser. Peut-être que l'aspect socialisation il est un peu plus connu, parce que finalement, c'est encore une fois une question de genre, et du coup c'est par les mêmes procédés que le sport devient genré. Alors comme on le disait en introduction, il est genré à plein de niveaux sur qui pratique quel sport, par exemple qui sont les petites filles, les personnes ici qui petites filles ont pratiqué de la danse ou ont rêvé d'en pratiquer, et celles qui ont rêvé de pratiquer ou qui ont pratiqué du rugby par exemple ou du lancer de poids ou ce genre de choses. Voilà, donc on parle bien sûr en pratique amateur. Et donc non seulement le choix du sport est genré, mais même à l'intérieur du sport finalement le type d'évaluation est assez genré aussi, c'est-à-dire que le type d'évaluation qu'on propose, ça va être des types d'évaluation qui correspondent à des critères de genre masculin. Donc, où les petites filles élevées comme des petites filles, on va dire, ont moins de chances finalement de réussir. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la puissance. Donc ça peut même être éventuellement en partie expliqué biologiquement, mais tout le reste, ça va être beaucoup la performance, etc. Et du coup, il y a plein de sports que les petites filles n'ont pas été éduquées finalement pour être bonnes dans ce sport, quoi. Et par exemple, la danse, typiquement, on ne considère pas toujours que c'est un sport. Si vous posez la question autour de vous, on considère souvent que c'est une pratique artistique. Mais finalement,
non plus, c'est pas vraiment un sport.
C'est le cheval qui fait tout. Et voilà, et la danse typiquement, c'est pas en compétition. Enfin, ça peut le devenir, hein, mais ça peut l'être des fois, etc. Mais officiellement, il y a pas d'épreuve de danse au JO, par exemple, que je sache. Hein. Voilà. Après, il y a de la compétition en termes professionnels, hein, mais au moins pour les pratiques amateurs, il n'y a pas de compétition officielle. Donc pour ça, c'est pas un sport. Donc on n'évalue pas des performances, en fait. C'est un jugement subjectif, par exemple, des danseurs et des danseuses. Tout ça, c'est d'autres critères, en fait, qui correspondent beaucoup plus à, effectivement, des critères genrés féminins que des critères genrés masculins. Et donc on considère que c'est pas des sports. À l'école aussi, ça pose problème, puisque en fait, l'évaluation de l'EPS, que l'éducation physique et sportive, est souvent faite sur ces mêmes critères. Alors des fois, on met des différences garçons-filles. Par exemple, moi, je me souviens qu'au collège, en endurance, les filles devaient pas... Dans mon souvenir, on devait tous courir aussi longtemps les uns que les autres, enfin les unes que les autres. Mais par contre, on devait compter nos tours de piste en, mettons, une demi-heure. Et donc, les garçons devaient en faire plus pour avoir 10 ou un truc comme ça. Donc voilà, ça par exemple, c'est typiquement le genre de choses qui différencient à la base garçons et filles, sachant que par exemple, moi personnellement, en 6e, je faisais déjà 1m60 et que je courais, à mon avis, beaucoup plus vite que les petits garçons encore pas du tout pubères, quoi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ridicule d'attribuer non seulement des critères collectifs, par exemple à l'âge de la puberté déjà, et puis des critères semi-collectifs, parce qu'on différencie quand même garçons et filles. Après, peut-être tout le monde a plein d'exemples, je pense, de la manière dont est enseigné le sport à l'école, dont il est évalué, et puis enseigné, parce qu'il y a plein de choses qu'on considère comme pas enseignées finalement.
Comme acquises. Mmh.
Comme acquises.
À propos de l'enseignement, il y a des choses qui pourraient être changées assez rapidement, par exemple, ne serait-ce que... en sixième expliquer les règles de chaque jeu. Par exemple, pour prendre tout bêtement ce qui m'était arrivé aussi en sixième, c'est le basket. On devait tous jouer au basket. Bon, alors, bon, moi, je savais vaguement quand même que ça jouait à la main, mais je connaissais pas plus les règles que ça. Et ben, aucun prof n'a jamais pris le temps de l'expliquer. Donc, moi, la première fois qu'on m'a donné le ballon, bah, j'ai fait un peu comme au rugby, quoi. J'ai couru avec le ballon jusqu'à l'autre bout du terrain, sauf que ça marche pas du tout comme ça. Et donc, bien sûr, bah, tout le monde s'est moqué de moi. Et donc, bon, moi, la prof a même pas expliqué. Donc, je me suis juste mis en retrait et j'ai plus jamais vraiment participé au sport pendant les 4 ans de collège. Alors qu'elle aurait juste pris même pas 5 minutes, juste 2, et d'expliquer les règles, exactement comment ça fonctionne. Et bien, tout le monde aurait pu jouer parce que moi, tout le monde aurait été à égalité. Alors que là, la majorité des garçons et quelques filles savaient parce qu'elles avaient appris avant. On est plein à pas l'avoir appris, et surtout les filles, en fait, on nous apprend pas ça. Et les profs pourraient faire l'effort d'expliquer juste les règles, et je pense que ça changerait déjà un petit peu les choses.
Oui, moi j'ai à peu près la même histoire, cette fois en pratique sport-loisir. J'ai appris à faire du vélo, je sais pas trop à quel âge, je m'en souviens même plus, quoi. Donc on va dire 5-6 ans, on a dû m'enlever mes petites roues. Et donc je pensais faire du vélo. Donc en gros, je faisais du vélo dans les rues de mon quartier et tout ça. Un jour d'ailleurs, j'ai eu un accident parce que j'avais un magnifique vélo rose avec des petites roues, mais j'allais dans les chemins de campagne avec ma cousine qui avait un VTT. On devrait lui proposer un test de féminité d'ailleurs. Je trouve ça bizarre qu'elle préférait le VTT. Mais enfin. Et après, par contre, j'aimais pas du tout le vélo parce que notamment ado, en colo par exemple, il y avait des sorties VTT ou des sorties vélo où c'était extrêmement pénible et j'en avais vraiment marre et j'étais toujours à la traîne, donc j'avais l'impression de ralentir le groupe et tout ça, ça m'a vraiment complètement démotivée. Donc après j'ai pu utiliser que le vélo que pour me déplacer. Et puis à 26 ans, j'ai découvert qu'en fait je n'avais jamais appris à faire du vélo, c'est-à-dire que je suis partie faire du vélo de rando en disant d'accord mais sur du plat. Et là il y a eu une côte et en fait j'ai réalisé que je ne savais pas passer les vitesses, et donc on m'a appris à passer des vitesses et ça a été une véritable révélation. En fait je savais pas passer des vitesses, et par exemple ça c'est pareil, personne ne me l'avait jamais appris, on considère que c'est acquis aussi parce que finalement c'est une forme de socialisation pour les garçons puis aussi par les garçons, et donc j'avais pas fait partie de ce lot là et il a fallu que j'attende je ne sais combien d'années pour faire cette découverte.
Ben moi c'est pas une anecdote personnelle, mais pour en revenir au choix du sport, j'ai essayé de chercher des clubs locaux sur des équipes de sport féminines sur Lyon, et j'ai eu beaucoup de mal à en trouver d'une part, et d'autre part ce qui est revenu souvent c'est l'anecdote du rugby, c'est-à-dire il y a plein de filles qui, gamines, jouaient au rugby avec les garçons et tout, et qui ont été obligées à l'âge de 10 ans d'arrêter le rugby parce qu'il n'y avait pas d'équipe de filles et qu'elles n'avaient pas le droit d'aller à la douche avec les garçons. Donc, à partir de là, elles ne pouvaient plus pratiquer le rugby, tout simplement. Donc, c'est un critère de sélection assez net aussi.
La douche.
Pour que même si on est une fille et qu'on a envie de jouer au rugby, on ne peut pas. C'est clair. Donc voilà.
Alors c'est vrai que jusque-là, en fait, on a pas mal plutôt critiqué la non-mixité dans le sport, c'est-à-dire les critères de catégorisation homme-femme. Finalement, il peut y avoir aussi des avantages à pratiquer le sport en non-mixité.
Alors, donc, je vais revenir là-dessus justement.
Ouais. Parce que, enfin, il peut y avoir plein de raisons. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que de pratiquer avec des garçons, ça nous traumatisait, soit parce qu'ils se foutaient de nous, soit parce qu'ils étaient plus forts, soit parce qu'ils nous apprenaient pas, qu'on n'avait pas appris la même chose, que c'était les mêmes critères d'évaluation, etc. Ça, par exemple, c'est aussi un des gros enjeux. Moi, je pense qu'il y a des sports que j'aurais pratiqués qu'avec des filles. Peut-être que je me serais sentie plus à l'aise.
Pour reprendre cet exemple, justement, j'ai trouvé un... Donc il existait des Jeux Olympiques réservés aux femmes et sans limite d'âge aussi. Donc ça date un peu, hein, c'était des Jeux Olympiques qui étaient en 2005. Alors je sais pas si c'est tous les 4 ans, normalement il y en a eu là en septembre ou il devrait y en avoir bientôt. Mais et du coup en fait c'est réservé aux femmes, et l'idée c'est surtout de permettre donc dans les pays musulmans où les femmes portent le voile, et du coup c'est de pouvoir leur permettre de pratiquer le sport sans leur tenue voilée.
Et donc, pour ça, on est, c'est des Jeux Olympiques qui se passent dans une non-mixité totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hommes dans le public non plus. Donc, ça permet aux femmes de pouvoir pratiquer le foot, la natation et tout ça en tenue plus légère que si elles étaient voilées. Et donc, les hommes attendent dehors, autour du stade, les résultats et tout ça. Donc, je trouvais que c'était un exemple de non-mixité qui peut être intéressant, justement, et qui permet aux femmes de pratiquer plus comme elles le veulent, le sport.
C'est-à-dire que, par exemple, balancer la mixité dans le sport à l'école sans faire attention aux pratiques genrées qu'il y a derrière, ça peut être catastrophique, quoi. Après, donc on voulait inviter une prof de sport qui n'a pas pu venir, peut-être qu'on l'interviewera un autre jour, mais je sais que sa démarche à elle, c'est de se dire que justement c'est pas évident de pratiquer le sport en mixité, parce que de toute façon elle se fera jamais dédoubler ses classes pour avoir un groupe de filles et un groupe de garçons, mais d'essayer de trouver des moyens d'évaluation déjà qui soient beaucoup plus égalitaires, et puis aussi des façons de faire et d'apprendre qui soient plus confortables pour les uns et pour les autres. Notamment, elle travaille beaucoup sur l'aspect contact physique, en mixité ou pas. D'ailleurs, je crois que dans certains cas, elle laisse le choix aux uns aux autres. Donc, c'est pour ça que, notamment, elle fait pratiquer le cirque. Mais c'est-à-dire qu'elle a toute une démarche en amont pour pratiquer cette mixité, pour qu'elle soit vivable, quoi. Voilà. Bon, allez, on passe une dernière petite chanson.
Pas con. J'ai fait l'amour sans un frisson. Incontestable. J'ai fait l'amour avec un con. Incontable. Pourquoi j'ai pas discuté? Normalement c'est ça qu'on fait. Non, c'est pas un conte de fées. Pourquoi j'ai bu tous ces verres? Le contact n'était pas bon. Pourquoi j'ai pas mis mes verres? Le contact c'est trop con. Le compte en addition. Et puis les moutons. Le temps de me dire à quoi bon. Et mon compte était bon. Pourquoi j'ai pas poussé le haut de ma vue? Pourquoi je l'ai poussé dans mon lycée inconnu? Déjà, je sais plus, je sais pas. Comment tu t'appelles déjà? Je sais plus, je sais pas. J'étais bourrée inconséquente. J'étais condamnée inconsciente. J'ai fait l'amour à contre-cœur. Il m'a même pas embrassé. J'ai fait l'amour en regardant l'heure. Je suis con. J'ai fait l'amour avec un. Parfois on se sent si seul. Mais dans le fond, tout le monde est seul. C'est pas con. Comment tu t'appelles déjà? J'ai plus, j'ai pas. Ah, si j'étais plus concentrée. Déjà, j'ai plus, j'ai pas. Comment tu t'appelles, comment tu t'appelles? Surtout me rappelle pas.
La chanson qu'on vient de passer, c'était une chanson d'Adrienne Poli qui s'appelle L'amour avec un con.
Bon, alors pour les trois dernières minutes info, on va en profiter pour faire une petite info sport. Parce qu'au début, j'ai voulu chercher des résultats sportifs des équipes féminines. Alors, je suis allée sur Internet et j'ai vraiment galéré parce que si on va juste sur le moteur de recherche entre Google et que vous marquez résultats sportifs ou résultats foot féminin, bah, vous tombez que sur des articles sur les femmes des sportives et non pas sur les sportives elles-mêmes. Donc, c'était un peu galère pour trouver. En tout cas, je peux annoncer que le dernier match des OL Femmes, on a gagné 5-0 contre Saint-Etienne. Voilà pour les toutes petites infos sportives. Mais de la même manière que j'ai eu du mal à trouver les infos pour les résultats, on a eu un peu du mal à trouver des équipes à matrice locale. Il doit certainement en avoir plein, mais d'un côté, c'est un peu révélateur le mal qu'on a eu pour trouver des informations concernant le sport féminin.
Voilà, et puis rappelez donc Anaïs Buon, Beauhuon, B-O-H-U-O-N, qui donc est historienne du sport et qui a écrit plein de choses intéressantes sur la question.
Et aussi Rue 69, qui est un bout du site Rue 89, qui a quand même des articles assez intéressants sur le genre et un positionnement assez bien, quoi.
Et puis voilà, et puis bah, nous on va aller boire un coup parce que aujourd'hui on fête nos 1 an. Sur Radio Canif.
Joyeux anniversaire.